impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture de quelques extraits du dernier roman de Delphine de Vigan, « Rien ne s'oppose à la nuit ». Dans ce livre, elle raconte l'histoire de sa mère, atteinte de troubles bipolaires au travers de l'histoire de toute sa famille.
Madame rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice.
Ma mère était bleue, d'un bleu pâle mêlé de cendres, les mains étrangement plus foncées que le visage, lorsque je l'ai trouvée chez elle, ce matin de janvier. Les mains comme tachées d'encre au pli des phalanges. Ma mère était morte depuis plusieurs jours. J'ignore combien de secondes, voire de minutes, il me fallut pour le comprendre, malgré l'évidence de la situation. Ma mère était allongée sur son lit et ne répondait à aucune sollicitation. Un temps très long, maladroit et fébrile, jusqu'au cri qui est sorti de mes poumons comme après plusieurs minutes d'apnée. Encore aujourd'hui, plus de 2 ans après, cela reste pour moi un mystère. Par quel mécanisme mon cerveau a-t-il pu se tenir si loin de lui la perception du corps de ma mère et surtout de son odeur? Comment a-t-il pu mettre tant de temps à accepter l'information qui gisait devant lui? Ce n'est pas la seule interrogation que sa mort m'a laissée. Un soir de ce même hiver, alors que nous rentrions d'un rendez-vous chez le dentiste et marchions côte à côte sur le trottoir étroit de la rue de la Folie-Méricourt, mon fils m'a demandé, sans préavis et sans que rien dans la conversation qui avait précédé n'ait pu l'amener à cette question. Grand-mère, elle s'est suicidée en quelque sorte. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, cette question me bouleverse. Non pas son sens, mais sa forme, ce « en quelque sorte » dans la bouche d'un enfant de 9 ans. Une précaution à mon endroit, une manière de tâter le terrain, d'y aller sur la pointe des pieds. Mais peut-être était-ce de sa part une véritable interrogation. Compte tenu des circonstances, la mort de Lucille devait-elle être considérée comme un suicide? Je ne sais plus quand est venue l'idée d'écrire sur ma mère, autour d'elle ou à partir d'elle. Je sais combien j'ai refusé cette idée. Je l'ai tenue à distance, le plus longtemps possible, dressant la liste des innombrables auteurs qui avaient écrit sur la leur, des plus anciens aux plus récents, histoire de me prouver combien le terrain était miné et le sujet galvaudé. J'ai chassé les phrases qui me venaient au petit matin ou au détour d'un souvenir. Autant de débuts de romans sous toutes les formes possibles dont je ne voulais pas entendre le premier mot. J'ai établi la liste des obstacles qui ne manqueraient pas de se présenter à moi et des risques non mesurables que j'encourais à entreprendre un tel chantier. Ma mère constituait un champ trop vaste, trop sombre, trop désespéré, trop casse-gueule en résumé. J'ai laissé ma sœur récupérer les lettres, les papiers et les textes écrits par Lucille, en constituer une malle spéciale qu'elle descendrait bientôt dans sa cave. Je n'avais ni la place ni la force. Et puis, j'ai appris à penser à Lucille sans qu'on m'en souffle en soit coupé. Sa manière de marcher, le haut du corps penché en avant, son sac tenu en bandoulière et plaqué sur la hanche, sa manière de tenir sa cigarette écrasée entre ses doigts, de foncer tête baissée dans le wagon du métro, le tremblement de ses mains, la précision de son vocabulaire, son rire bref qui semblait l'étonner elle-même, les variations de sa voix sous l'emprise d'une émotion dont son visage ne portait parfois aucune trace. J'ai pensé que je ne devais rien oublier de son humour à froid, fantasmatique, et de sa singulière aptitude à la fantaisie. Je ne sais plus à quel moment j'ai capitulé. Peut-être le jour où j'ai compris combien l'écriture, mon écriture, était liée à elle, à ses fictions, ses moments de délire où la vie lui était devenue si lourde qu'il lui avait fallu s'en échapper, où sa douleur n'avait pu s'exprimer que par la fable. Et puis, comme des dizaines d'auteurs avant moi, j'ai essayé d'écrire ma mère.
Madame rêve d'atomiseur et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve.
Lucille était la troisième d'une fratrie de 9 enfants. De toutes, elle était la plus silencieuse. La mère de Lucille apparut à l'entrée du square, sur le chemin de sable, bras levés, lumineuse et belle. Liane captait la lumière d'une manière inexplicable, peut-être en raison de ses cheveux si clairs et de son sourire si grand, peut-être en raison de cette confiance qu'elle avait dans la vie, cette manière de tout miser sans rien retenir. Elle venait chercher Lucille pour une séance de photos. Lucille aimait les photos, mais ce qu'elle aimait plus que tout, c'était le temps passé avec sa mère, le trajet aller-retour en métro, l'attente entre les prises, le pain au chocolat acheté en sortant de la première boulangerie, ce temps volé qui n'était consacré qu'à elle et où aucun autre enfant ne pouvait revendiquer de tenir la main de Liane. Lucille était d'une beauté que rien ne pouvait contredire. Lucille, partout où elle se trouvait, suscitait le regard, l'admiration. On louait ses traits réguliers, la longueur de ses cils, ses yeux dont la couleur variait du vert au bleu, en passant par toutes les nuances de métal, son sourire timide ou désinvolte, ses cheveux si clairs. Longtemps, l'attention qui lui était portée avait mis Lucille mal à l'aise, avec ce sentiment que quelque chose de poisseux lui collait au corps. Quand elles entrèrent dans la pièce, le couvert était mis. Georges, le père de Lucille, venait d'arriver et lisait le journal. Liane envoya Lucille à la douche, tandis que les autres se mettaient à table. Il terminait la soupe lorsque Lucille rejoignit la table, les pieds nus et les cheveux mouillés. « Alors, ma belle, tu as fait des photos ?» Le regard de Georges sur sa fille semblait empreint d'étonnement. Lucille avait quelque chose de sombre qui lui ressemblait. Depuis qu'elle était toute petite, Lucille l'intriguait. Cette manière qu'elle avait de s'isoler, de s'abstraire, de se tenir d'un seul côté des chaises, comme si elle attendait quelqu'un, d'utiliser le langage avec parcimonie. Cette manière avait-il parfois pensé de ne pas se compromettre. Mais Lucille, il le savait, ne perdait rien, pas un son, pas une image. Elle captait tout, absorbait tout. Comme ses autres enfants, Lucille voulait lui plaire, guettait son sourire, son assentiment, ses félicitations. Comme les autres, elle attendait le retour de son père, et parfois, lorsque Liane l'y encourageait, racontait sa journée, mais Lucille, plus que tout autre, était reliée à lui. Et Georges ne pouvait détacher son regard d'elle, fascinée. La possibilité de la mort, ou plutôt la conscience que la mort pouvait surgir à n'importe quel moment, entra dans la vie de Lucille au cours de l'été 1954, à la veille de ses 8 ans. Désormais, l'idée de la mort ferait partie de Lucille, une faille, ou plutôt une empreinte indélébile, comme plus tard la montre ronde aux traits épais qu'elle ferait tatouer à son poignet. À la fin de juillet, Liane et les enfants étaient partis dans un petit village d'Ardèche où vivaient les parents de Georges. Les journées s'écoulaient dans la chaleur du mois d'août, douce et pleine, les enfants jouaient dans le jardin. Dans la grande maison, Liane, aidée par ses beaux-parents, pouvait se reposer. Georges était resté travailler à Paris. Un après-midi, alors que Lucille s'exerçait au piano, des cris avaient envahi le jardin. Pas les cris des jeux et des disputes qu'elle n'entendait même plus, non, des cris plus aigus encore, d'effroi, qu'elle ne connaissait pas. Lucille s'était arrêtée, main levée sur le clavier. Elle avait guetté les mots sans parvenir à les comprendre. Pourtant, la petite voix de Milo, ou bien était-ce celle d'un autre enfant, avait fini par l'atteindre, parfaitement distincte. « Ils sont tombés, ils sont tombés !» Lucille avait senti son cœur battre dans son ventre. Et puis, dans la paume de ses mains, elle avait attendu encore quelques secondes pour se lever. Quelque chose était arrivé. Elle le savait. Quelque chose d'irrémédiable. Ensuite, elle avait entendu le hurlement de Liane et s'était précipitée dans la maison. Antonin et son cousin Tommy jouaient sur les planches de bois qui recouvraient le puits lorsque celle-ci avait cédé. Sous les yeux des autres enfants, les deux garçons étaient tombés. Tommy avait aussitôt refait surface. On distinguait sa présence, on pouvait lui parler. L'eau était glaciale, mais il semblait tenir. Antonin n'avait pas réapparu. Pendant tout ce temps, Lucille était restée en retrait. Un mètre derrière sa mère, qu'elle regardait se débattre avec une violence qu'elle ne lui connaissait pas. Les pompiers étaient arrivés, équipés de leur matériel. On avait envoyé les enfants chez les voisins. Ils avaient longtemps cherché le cœur d'Antonin avant de le trouver. Le puits donnait sur une citerne. Antonin était mort d'hydrocution. Désormais, la mort d'Antonin ne serait plus qu'une onde souterraine, sismique, qui continuerait d'agir sans aucun bruit.
Rêve d'archipel, vague perpétuelle, sismique et sensuelle.
Quelques mois plus tard, la famille s'agrandit par la naissance de Violette et l'adoption de Jean-Marc, qui a le même âge qu'Antonin.
Puis, l'auteur éprouve des difficultés à avancer dans l'écriture de son récit, et elle s'interroge sur l'objectivité de la narration. Qu'avais-je imaginé ? Que je pouvais raconter l'enfance de Lucille à travers une narration objective, omnisciente et toute-puissante ? Qu'il me suffisait de puiser dans le matériau qui m'avait été confié et faire mon choix, autant dire mon petit marché, mais de quel droit ? Sans doute avais-je espéré que, de cette étrange matière, se dégagerait une vérité. Mais la vérité n'existait pas. Je n'avais que des morceaux épars, et le fait même de les ordonner constituait déjà une fiction. Quoi que j'écrive, je serais dans la fable. Comment avais-je pu imaginer un seul instant pouvoir rendre compte de la vie de Lucille ? Que cherchais-je au fond, si ce n'était approcher la douleur de ma mère, en explorer le contour, les replis secrets, l'ombre portée ? La douleur de Lucille a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie d'adulte. La douleur de Lucille, sans doute, nous constitue, ma sœur et moi. Pourtant, toute tentative d'explication est vouée à l'échec. Ainsi, devrais-je me contenter d'en écrire des bribes, des fragments, des hypothèses ? L'écriture ne peut rien. Tout au plus, permet-elle de poser les questions et d'interroger la mémoire ? Liane est morte un mois et demi avant ma mère. Et je crois pouvoir dire sans me tromper que la mort de Liane, qui avait déjà perdu 3 enfants, a donné à Lucille le feu vert qu'elle attendait pour mettre un terme à sa propre vie. Chacun a gardé des événements qui ont fondé l'histoire familiale, sa propre vision. Un matin, je me suis levée et j'ai pensé qu'il fallait que j'écrive. Dussé-je m'attacher à ma chaise et que je continue de chercher, même dans la certitude de ne jamais trouver de réponse. Le livre, peut-être, ne serait rien d'autre que ça. Le récit de cette quête contiendrait en lui-même sa propre genèse, ses errances narratives, ses tentatives inachevées. Mais il serait cet élan de moi vers elle, hésitant et inabouti.
On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin.
les noix.
Lucille n'aimait pas Jean-Marc, mais elle s'était habituée à lui. Lucille partageait avec lui quelque chose que les autres ignoraient, car Lucille aussi avait peur. Peur du bruit, du silence, des voitures, peur des voleurs d'enfants, de tomber, de déchirer sa robe, de perdre quelque chose d'important. Elle ne savait pas quand la peur était venue. La peur avait toujours été là. Lorsqu'il fallait faire un vœu, parce que c'était la première fois, première fraise, première neige, premier papillon, Lucille songeait toujours au même. Elle rêvait de devenir invisible, tout voir, tout entendre, tout apprendre, sans que rien de palpable ne signalât sa présence. Elle ne serait plus qu'une onde, un souffle, un parfum peut-être, rien qu'on pût toucher ou rattraper. Plus que tout autre, Lucille était la fille de Georges. Elle ressemblait à son père, elle avait son humour, son regard, ses intonations. Liane aurait voulu être capable de l'aimer mieux, de la rassurer, de briser la forteresse de son silence. Au lieu de quoi, Lucille restait cette enfant mystérieuse qui avait grandi trop vite et qu'elle ne prenait plus dans ses bras. Lucille, bientôt, serait plus vive qu'elle, plus intelligente, plus spirituelle. À quel moment ce sentiment lui était venu, Liane l'ignorait. Et Lucille continuait de l'observer, avec cet air de tout savoir, sans rien avoir appris, cette façon d'être là sans y être, de mener une existence parallèle à la leur, et parfois de la juger. Lucille n'aimait pas le sport. Elle avait peur des ballons, des raquettes, du cheval d'arçon. Elle ne courait pas vite, ne parvenait pas à lancer le poids à plus d'un mètre devant elle, ne rattrapait jamais une balle, fermait les yeux dès que les choses allaient trop vite. Lucille ne pouvait pas toucher le sol avec ses mains quand elle était debout, ni faire le pont, ni pencher son corps vers l'avant pour attraper ses pieds quand elle était assise. Elle n'avait jamais su faire la roue, ni les sauts de biche, ni le poirier. Le corps de Lucille était noué, récalcitrant, impossible à délier. Tout juste était-elle capable d'exécuter une roulade avant, et encore, au meilleur de sa forme. Liane se désolait de voir sa fille si peu sportive. Toujours la dernière à courir, à sauter dans l'eau, à accepter une partie de ping-pong. La dernière à se lever de son lit, tout simplement. Comme si la vie entière était contenue dans les pages des livres, comme s'il suffisait de rester là, à l'abri, à contempler la vie de loin. Au fil des semaines, le cours de gymnastique du lycée Lamartine était devenu pour Lucille un supplice dont la perspective l'empêchait de dormir. Au début de l'année, elle avait prétexté des migraines, des règles douloureuses, des maux d'estomac. Mais Liane n'avait pas été dupe très longtemps. Aussi Lucille était-elle partie chaque vendredi en classe, le ventre noué, les mains moites. Au deuxième trimestre, en l'absence de tout motif légitime, Lucille avait commencé à sécher le cours de gymnastique. Elle traînait dans les rues, ou bien s'asseyait sur le banc d'un square, laissait passer les heures. Et puis, elle avait séché d'autres cours tout aussi ennuyeux. Elle imitait la signature de Liane, cela était devenu facile, elle avait besoin de respirer.
Oh ciel, oh ciel,
pendant la guerre, Georges travaillait dans un journal qui s'appelait Révolution nationale et qui n'était pas un journal de la résistance. Delphine de Vigan se demande si la position de Georges pouvait entrer en compte dans la souffrance de Lucie. Au bout du compte, même si, comme d'autres de ses frères et sœurs, Lucille s'est interrogée sur le passé de son père, même si elle s'est étonnée de nombreux paradoxes que celui-ci abritait, je crois qu'en ce qui concerne les heures de Georges sous l'occupation, elle lui a accordé au minimum le bénéfice du doute. Et l'a haï pour d'autres raisons.
En 1960, la famille quitte la rue de Maubeuge pour s'installer dans une vaste maison de Versailles. Chacun des enfants avait choisi sa chambre. Pour la première fois, Lucille disposait d'un territoire propre, auquel nul autre avait accès. Elle y installa son désordre, vêtements et livres, dans un enchevêtrement qu'elle seule maîtrisait, et referma la porte derrière elle. Lucille passait des heures à rêver, allongée sur son lit, à inventer son avenir, un avenir qu'elle imaginait avant tout sans contrainte, sans rien qui pût l'empêcher ni la retenir. Depuis qu'ils avaient déménagé, Liane et Georges organisaient de nombreux dîners. Liane prenait une extra pour préparer une partie du repas, assurer le service et l'aider dans le rangement. En début de soirée, les trois aînés descendaient pour dire bonjour, faire un frais, répondre à quelques questions sur leurs études ou raconter la dernière pièce qu'ils avaient vue au Théâtre français auquel ils étaient abonnés tous les trois. Parfois, Georges leur demandait de rester pour l'apéritif. Il jugeait utile pour ses enfants d'écouter les adultes et d'apprendre à se joindre aux conversations. Peu à peu, dans ces moments d'échange qui précédaient le dîner, Lucille avait découvert les limites de son père. Georges ne savait pas tout. Entouré d'autres personnalités aussi fortes, brillantes et érudites que lui, Georges n'avait pas toujours le dernier mot. Il lui arrivait de se heurter à des opinions contraires aux siennes et à des arguments sur lesquels il peinait à renchérir, ce qui ne l'empêchait jamais de conclure sur un ton sans appel qu'il avait raison. Lucille observait son père, entrevoyait son intolérance et ses contradictions. Depuis longtemps, Georges avait décrété que Proust était un écrivain mineur, un pisseur de pages, un grouillon incontinent. Le style, de la broderie bon marché pour vieille fille presbyte, autant prendre un somnifère. Georges provoquait le rire, on osait le contredire. Mais un jour, dans une de ces soirées au cours desquelles il ne renonçait jamais au premier rôle, Georges était tombé sur un spécialiste de Proust, capable de répondre à ses attaques et de défendre la prose de l'écrivain dont il connaissait des pages entières par cœur. Lucille avait écouté la joute verbale qui s'était engagée entre les deux hommes, n'en avait pas perdu un mot. Ainsi, son père pouvait avoir tort et même se ridiculiser. Barthélemy, qui assistait comme elle à la discussion, avait pris le parti du contradicteur. Georges lui avait ordonné de se taire. Le lendemain, Lucille avait volé dans le porte-monnaie de Liane de quoi acheter le premier tome de la recherche et l'avait enfoui au cœur de son fameux puits.
Après 7 années sans grossesse, Liane était tombée enceinte. Aucun souci n'était venu entacher ses quelques mois de douceur et elle accoucha d'un magnifique petit garçon prénommé Tom. Le médecin lui annonça que son fils était mongolien. Après avoir multiplié les tests et examens complémentaires, Georges dut se rendre à l'évidence. Tom était atteint de trisomie 21 et il décida de consacrer toute son énergie à cet enfant.
Justine et Violette veillaient sur Tom, se réjouissaient de ses progrès. Les choses se perpétuaient, se transmettaient, c'était le propre des familles nombreuses. Tom était un amour d'enfant, un roi chéri, un prince. Il dormait bien, mangeait bien, ne pleurait jamais. Il était facile. Dès que l'on s'approchait de lui, il tendait les bras et poussait des cris de joie. Parfois, Lucille le tenait contre elle, caressait le duvet blond sur sa tête, embrassait ses petites mains. Comme ses frères et sœurs, elle s'était attachée à Tom. N'envisageait pas qu'il pût être un autre, ne l'aurait échangé contre aucun enfant. Pourtant, dès les premiers mois, il lui était apparu que, dans cette fratrie noyée par le nombre, Tom était un facteur de dilution supplémentaire. Tom était un chagrin que ses parents avaient su transformer en cadeau. Un cadeau qui prenait beaucoup de place. Un jour, Lucille partirait. Elle quitterait le bruit, l'agitation, le mouvement. Ce jour-là, elle serait une, et une seule, distincte des autres, ne ferait plus partie d'un ensemble. Elle se demandait souvent à quoi ressemblerait le monde ce jour-là, s'il serait plus violent ou au contraire plus clément.
Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle.
La famille est à nouveau endeuillée par le suicide de Jean-Marc. C'est Liane qui l'a découvert allongé sur son lit, un sac de plastique enfoncé sur la tête.
La presse s'était emparée du fait divers. Les journalistes étaient venus, avaient sonné à la porte, téléphoné sans relâche. Les uns après les autres, ils s'étaient heurtés à la violence de Georges, à ses injures. À Lucille et à ses frères et sœurs, on avait expliqué la mort de Jean-Marc d'une voix posée. Parce qu'il avait été un enfant battu, Jean-Marc avait l'habitude de se protéger la tête au moment de s'endormir. Ce soir-là, épuisé par son entraînement de natation, il s'était couvert d'un sac en plastique et ne s'était pas réveillé. Jean-Marc était mort asphyxié dans son sommeil. Il n'avait pas souffert. Rien d'autre n'avait été ajouté. La maison, aussi vaste fut-elle, abritait dorénavant un air lourd, saturé. Georges, hagard, sursautait à la moindre sonnerie. Aux enfants, on cachait les titres des journaux qui nourrissaient sa colère. Aux autres, rien ne devait être dit. Jean-Marc était mort, il n'y avait rien à ajouter.
Au commencement, lorsque j'ai fini par accepter l'idée d'écrire ce livre, après une longue et silencieuse négociation avec moi-même, je pensais que je n'aurais aucun mal à y introduire de la fiction, ni aucun scrupule à combler les manques. Je veux dire, en quelque sorte, que je pensais rester maître à bord. J'imaginais être capable de construire une histoire fluide et maîtrisée, ou tout au moins un texte qui s'élaborerait dans une forme assurée et constante et prendrait sens à mesure qu'il progresserait. Je croyais pouvoir inventer, donner un souffle, une direction, créer de la tension, mener l'affaire d'un bout à l'autre sans ligne de faille ni point de rupture. J'espérais pouvoir manipuler le matériau à ma guise. Au lieu de quoi, je ne peux toucher à rien. Je perçois, chaque jour qui passe, combien il est difficile d'écrire ma mère, de la cerner par les mots, combien sa voix me manque. Lucille nous a très peu parlé de son enfance. Elle ne racontait pas. Aujourd'hui, je me dis que c'était sa manière d'échapper à la mythologie, de refuser la part de fabulation et de reconstruction narrative qu'abritent toutes les familles. Je n'ai aucun souvenir que ma mère m'ait donné à entendre de sa bouche les différents événements qui ont marqué son enfance. Je veux dire qu'elle les ait évoqués dans un récit énoncé au jeu, qui nous aurait donné accès, au moins en partie, à sa vision des choses. Ce qui me manque, au fond, c'est son point de vue à elle, les mots qu'elle eut choisis, l'ordre d'importance qu'elle lui attribuait aux faits, les détails qui lui eussent appartenu. Elle évoquait parfois ces choses, la mort d'Antonin, celle de Jean-Marc, les photos de l'enfant vedette qu'elle avait été, la personnalité de Liane ou celle de son père. Elle les évoquait avec une violence certaine, mais hors de toute narration, de toute mise en récit. Comme elle aurait jeté des pierres pour nous atteindre de plein fouet ou bien se délester du pire. Je tente pourtant de reconstituer sa vision à partir des fragments qu'elle a livrés aux uns et aux autres, à Violette, peu de temps avant sa mort, à ma sœur Manon, à moi parfois. Je recompose, certes, je comble les creux, j'arrange à ma manière. Je m'éloigne un peu plus de Lucille en voulant l'approcher.
D'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh,
Georges ne supportait pas les cheveux de Barthélemy, ni cette façon que son fils avait maintenant de le contredire en public, ses manières de prince, ses invitations dans les rallyes, ses succès auprès de la gente féminine, gloussante et caquetante, ses amis au regard vide qui se prétendaient épris de littérature. Georges n'aimait pas non plus les piaillements de Lisbeth, sa gaieté bruyante, ses préoccupations chiffonnières. Il ne supportait pas davantage le temps que Lucille passait dehors, sans autre précision de lieu ni de compagnie, ses pantalons moulants, ses lèvres maquillées, sa manière de lever les yeux au ciel, ses silences désapprobateurs. Dès lors que ses enfants avaient commencé à sortir le soir et à se préparer pendant des heures, dès lors qu'ils s'étaient liés avec d'autres jeunes gens dont les noms circulaient autour de la table et tard dans la soirée, dès lors qu'ils avaient commencé à être invités à droite et à gauche, Georges avait pris de plein fouet leur éloignement. Tout cela, au fond, n'était que trahison. À mesure que ses enfants grandissaient, Georges se laissait aller à des railleries de plus en plus dures. Boutons d'acné, empourprement, et regards fuyants alimentaient ses diatribes. Georges avait la métaphore assassine et rien ne lui échappait. Vêtements, attitudes, accessoires étaient passés au crible, analysés, conspués. Certains soirs, la moquerie confinait au lynchage. Car Georges, toujours, jouissait de la dernière frappe, du dernier mot. Lucille n'échappait pas à la règle, mais son père n'allait jamais jusqu'à l'humilier. Lucille se dérobait à son regard, cherchait les angles morts. Le silence n'offrait pas de prise. À mesure que le temps passait, elle semblait mener une vie parallèle et secrète à laquelle il n'avait pas accès. Lucille haïssait la toute-puissance de son père, son absence d'indulgence, sa férocité sans limite. Elle observait le visage de Georges, déformé par une douleur sourde, le pincement dégoûté de ses narines, le pli d'amertume à ses lèvres. Elle ne le reconnaissait pas. Depuis quand Georges était-il devenu cet être amer? Elle ne savait le dire. Ou bien, peut-être le découvrait-elle maintenant, sous son vrai jour, et prenait-elle la mesure de sa violence? Lucille avait rencontré Gabriel, le plus jeune frère de la collaboratrice de Georges, à Alicante. Ils s'étaient vus plusieurs étés. Ils étaient sortis en bande le soir. Ils firent l'amour pour la première fois et Lucille se retrouva enceinte à 18 ans. Elle fit le choix de se marier avec Gabriel.
À l'heure où Lucille quitte sa famille, il me semble qu'il manque une dimension à cette composition étrange sur laquelle je travaille depuis maintenant plusieurs mois, qui deviendra peut-être un livre. Je me suis trompée de couleur, de décor, j'ai tout mélangé, confondu le rouge et le noir, et perdu le fil en route. Mais au fond, rien de ce que j'aurais pu écrire ne m'eût satisfaite davantage. Rien ne m'eût semblé assez proche d'eux. J'aurais voulu donner à lire ma famille dans ce qu'elle avait de plus joyeux. Cette vitalité bruyante et excessive qui l'animait, cette manière puissante de lutter contre le drame. J'aurais voulu donner à lire les multiples étés que Liane et Georges ont passés avec leurs enfants sur les plages du Sud, en France, en Italie ou en Espagne. Cette capacité que Georges avait de vivre au-dessus de ses moyens, de dénicher des endroits à sa démesure et au moindre coût, d'y entraîner sa tribu, sur laquelle se greffaient toujours quelques cousins jugés palichons, ou voisin carencé en globules rouges. De ces virées estivales témoignent toute une série de films Super 8 que j'ai récupérés, transférés sur VHS, où l'on voit Lucille et ses frères et sœurs sur la plage, cheveux délavés par le soleil et maillots d'époque, réunis dans l'eau autour d'un bateau gonflable ou allongés en randonnant sur le sable. Lucille est belle, elle sourit, participe au jeu, court avec les autres, reste à leur côté. L'enfance de Lucille a disparu avec elle et nous restera à jamais opaque. Lucille est devenue cette femme fragile, d'une beauté singulière, drôle, silencieuse, souvent subversive, qui longtemps s'est tenue au bord du gouffre, sans jamais le quitter tout à fait des yeux. Cette femme admirée, désirée, qui suscita les passions, cette femme meurtrie, blessée, humiliée, qui perdit tout en une journée, et fit plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Cette femme inconsolable, coupable à perpétuité, murée dans sa solitude. Le reportage donne à voir une famille joyeuse, unie, où la priorité a été donnée à l'autonomie des enfants et à l'épanouissement de leur personnalité. Pourtant, à la vision de ce reportage, à les voir tous si beaux, si bien dotés, à la fois si différents les uns des autres, si semblablement charismatiques, me sont venus ces mots. Quel gâchis! Que s'est-il passé? En raison de quel désordre, de quel poison silencieux? La mort des enfants suffit-elle à expliquer la faille, les failles? Car les années qui ont suivi ne peuvent se raconter sans les mots « drame », « alcool », « folie », « suicide » qui composent notre lexique familial au même titre que les mots « fête », « grand écart » et « skinotique ». Au cours des entretiens que j'ai menés, certains parlent de désastre, y compris parmi les plus concernés. Il me semble que ce mot est le plus juste si l'on considère que sur toute ruine, on peut reconstruire ce que chacun, à notre manière, nous avons fait.
Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Nous vous avons lu quelques extraits de « Rien ne s'oppose à la nuit », récit publié aux éditions Jean-Claude Lattès en août 2011. L'auteur, Delphine de Vigan, romancière française, née en 1966, a obtenu pour ce livre, en 2011, le prix du roman FNAC, le prix roman France Télévisions, le prix Renaudot des lycéens. Ces extraits ont été lus par Denise et Annie. À la technique, Vincent. Chers auditeurs, nous vous espérons la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce roman.
Madame rêve d'atomiseur et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles.
Cette lecture a été accompagnée par la chanson Osez Joséphine, écrite par Alain Bachoun et Jean Fauque, titre qui a accompagné Delphine de Vigan tout au long de son écriture.
Au ciel. Au ciel.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez